Et maintenant, un bon boîte de casque.
Bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de Cédric et Thomas de Repos Productions. Bonjour messieurs.
Bonjour Tibi.
Ça c'est Cédric.
Bonjour.
Et ça c'est Thomas. Alors nous sommes dans une ambiance poétique cette fois-ci, puisque Cyrano est en passe de sortir. Hein, on en parle depuis pas mal de temps, Cyrano. Mais il a eu le temps de se peaufiner. C'est comme le bon vin, un bon poème, ça se mature. Alors on peut repasser peut-être vite sur le principe, comme on dit le pitch, et puis on passe sur l'histoire du jeu.
Allez, moi je fais le pitch. Donc Cyrano, c'est un jeu de poèmes qu'on peut jouer même assez nombreux. On peut jouer jusqu'à 9 joueurs.
Okay. Le mécanisme du jeu, par étape, donc du placement jusqu'au comptage des points.
D'accord, alors, ouvrir la boîte, sortir le matériel. Bon, ok, alors, chacun reçoit une petite feuille, donc, qui lui servira à écrire ses poèmes et à noter son score. On va piocher 3 cartes au hasard, on choisit la langue dans laquelle on joue, mais a priori nous allons plutôt jouer en français, parce qu'en allemand je ne suis pas très bon. On introduit ces cartes dans la tour à cartes, et en introduisant les 3 cartes dans la tour à cartes vont apparaître un thème et 2 rimes. Donc là par exemple je viens de le faire, donc le thème c'est le ciel, une rime en if et une rime en o. Maintenant chaque joueur reçoit un petit crayon et va écrire 4 lignes de poème, 2 se finissant par if, 2 se finissant par o, mais sans ordre précis, ça peut être if, if, o, o, if, o, if, o, etc. Une fois que tout le monde a fini, chacun va déclamer son poème, si possible donner un titre à son poème, c'est une bonne idée parce qu'on va mieux identifier les joueurs. Et après avoir déclamé son poème, le joueur va répéter ses 4 mots de fin. Par exemple, j'ai mis soutif, eau, plaintif et chorizo. Tu as aussi mis chorizo. Ah, d'accord, un poème avec soutif, bravo. Donc, je ne marquerai pas 2 points pour chorizo, je ne marquerai que 3 points. Et donc là, ce sont des points où on va monter à la corde, donc faire des croix sur la corde. Première partie du jeu, tout le monde déclame son poème. On regarde les mots originaux ou les mots communs. Les mots communs, hélas, ne font pas marquer de points. Les mots originaux font marquer des points. Petite précision, si un joueur sèche un peu, il y a sur chaque carte des mots indiqués. Il y a 2 mots sur chaque carte. Par exemple, dans le cas de la rime en if, j'avais impératif et instinctif, qui sont censés servir aux joueurs qui sont en cruel manque d'inspiration et qui ont besoin d'un mot, pour éviter que le jeu ne s'éternise trop longtemps.
Mais si on est 2 à l'utiliser, c'est pas de points.
De toute façon, si on utilise ce mot, c'est un mot qui vaudra 0 point. Okay. Mais il permet de débloquer certaines situations. Après coup, une fois que tout le monde a déclamé ses poèmes et que l'on a noté les mots originaux, nous allons passer à la phase de vote. Au début de la partie, chacun a reçu un petit totem avec une icône, donc entre la bouteille, l'épée, l'étoile, l'encrier, la plume, le soleil, la lune, enfin, que des petites choses bien poétiques. Et on a tous aussi reçu des cartes de vote qui correspondent à ces icônes, hein, qui sont tous avec une couleur dominante. C'est-à-dire que chaque joueur a une couleur. Hein, il y a un joueur vert, un joueur rouge, un joueur bleu. Et là, chacun, maintenant, pour la phase de vote, va voter pour un joueur. Donc tu vas essayer de voter pour le poème qui t'a le plus plu, ou qui t'a fait le plus rire, ou qui t'a le plus touché. Peu importe. Mais lorsque tu votes, tu essaies de voter comme la plupart des gens vont voter. Parce que tu vas marquer autant de points que de joueurs qui votent comme toi. Admettons que Thomas ait fait un bon poème, ce qui n'est qu'une supposition, et que Thomas joue vert. Vous êtes 3 à avoir voté vert, et moi aussi j'ai voté vert, mais comme vous êtes 3 à avoir voté comme moi, je vais marquer 3 points. D'accord. Et chacun de vous aussi. Par contre, Thomas qui pensait que toi tu avais fait un bon poème, ce qui était déjà plus probable, toi qui jouais rouge, et il vote, mais il est le seul à voter pour toi, il marquera 0 points, car personne n'a voté comme lui. Ces points-là font descendre Roxane de sa tour, donc c'est sur les petites pierres blanches de la tour que l'on va noircir à l'aide de croix, pour Roxane qui descend. Et lorsque l'un des joueurs a Roxane et Cyrano qui se rejoignent au même étage, c'est-à-dire que chaque étage a une couleur hein, qui est indiquée par la couleur du rideau de l'étage, l'échelle aussi a des étages indiqués avec des petits foulards qui sont noués le long de l'échelle. Donc dès qu'un joueur a ces 2 personnages qui se retrouvent au même étage, il a gagné la partie. Globalement, il faut compter à peu près 6 mini-poèmes pour y arriver. Ça peut varier un peu selon le nombre de joueurs, 5 poèmes à 7 poèmes.
L'auteur, c'est Angèle et Ludovic Maublanc. Donc pour une fois, on a une Angèle. C'est qui cette Angèle, Thomas ?
On ne sait pas, hein. On a mis le nom. Non, Angèle, c'est donc la femme de Ludovic Maublanc. Et donc, à la base, je pense que c'est parti sur une idée de Ludovic, mais Angèle a été un très gros support pour
faire de Cyrano ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment un jeu subtil à tout niveau, avec des rimes qui vont fonctionner, etc. Donc voilà, mais c'est clair que c'est rare. Il y a souvent des duos, mais un couple qui fait des jeux, c'est assez rare.
C'est une première dans ce genre de collaboration. Ça veut dire que c'est un jeu qui vient du cœur aussi?
Ben probablement, c'est un jeu d'amour. La question, ce qui aurait été bien, c'est que ça se joue à deux, mais ça se joue plutôt de 4 à 9. Donc voilà. Mais je pense que le côté vraiment atypique, ça Ludovic nous l'avait amené, mais le côté vraiment littéraire, pour les amoureux de la langue, etc., ça vient vraiment de l'association des deux. Voilà, c'est ce qui nous plaisait dans le jeu. C'est-à-dire que le jeu est vraiment très original. Normalement, il va plaire à un public, mais on n'a aucune idée de la taille du public. C'est-à-dire que la peur de la page blanche peut un peu freiner des joueurs, sachant qu'on l'a beaucoup testé, c'est pour ça qu'il est en retard, comme d'habitude chez nous. Ça fonctionne très très bien. Le premier poème prend parfois un petit peu de temps, mais une fois que les gens sont lancés, tout se simplifie. En fait, les gens se rendent compte que c'est très très simple. Il faut trouver 4 mots, faire un poème. Donc voilà, c'est un jeu qui peut paraître un peu compliqué au début parce que la poésie fait peur, etc. Et en fait, après 10 minutes, tout le monde va se rendre compte qu'il devient un vrai poème. Plus on pratique le jeu, plus on arrive à écrire des choses qui sont quand même franchement jolies. En termes de développement, on avait d'abord pensé faire des ardoises sur lesquelles on pouvait écrire. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens voulaient garder leur poème à la fin. Et donc, c'est un gros bloc de 150 pages qui sera dans la boîte. Avec cette volonté-là, les joueurs vont pouvoir garder, conserver leurs œuvres. Peut-être que la première partie, ils seront gênés, mais la deuxième, la troisième, la vingtième ou la centième partie, ils auront vraiment écrit des très très belles choses.
Alors là, on retrouve le repos production du jeu d'ambiance, hein, puisque vous étiez, on va pas dire éloigné, hein, vous avez élargi votre vision sur des jeux qui sont moins d'ambiance, hein, le jeu d'ambiance pour les fantômes, c'était Ghost Stories, parce que c'est eux qui s'amusent. Donc le but de reproduction par rapport à Cyrano, c'est de revenir au jeu d'ambiance, ou bien c'est juste simplement le jeu était intéressant et donc on le sort.
Mais il n'y a pas vraiment de retour au jeu d'ambiance, ni de départ vis-à-vis du jeu d'ambiance. Quand on a fondé Reproduction avec Thomas, c'était avec Time's Up, donc tout le monde nous a associé tout de suite au jeu d'ambiance. Notre but, c'est surtout de faire des bons jeux, que ce soit des jeux d'ambiance, des jeux de stratégie, peut-être un jour des jeux pour enfants, des jeux pour Wargamer, enfin, que sais-je. Notre credo, c'est plutôt le bon jeu. Donc, voilà. Mais après tout, les jeux d'ambiance ont plutôt tendance à s'orienter naturellement vers le grand public, elles sont bien souvent plus faciles d'accès. Et c'est plus des jeux qui vont créer une émotion où on va rire ensemble, des choses comme ça. Mmh. Effectivement, ce sont des jeux qui marchent et des jeux sur lesquels les gens nous identifient très fort.
Mais qui nécessitent un développement plus important que d'autres jeux.
Par moment, oui. En fait, si on règle un jeu très très mathématique, comme un Ghost Stories ou autre, bon, il y a quand même des heures et des heures de réglage. Hein. Faut pas se leurrer sur Ghost Stories. Il y a eu un boulot de fou qui a été accompli, que ce soit par Antoine, que ce soit en testing ici. Enfin, tout le monde a vraiment beaucoup testé le jeu. Mais créer un jeu d'ambiance, c'est pas non plus 5 minutes sur un bout de papier en disant tiens, on va faire un truc auquel on va se marrer, parce que justement de générer l'émotion chez le joueur, c'est ça qui est très dur. Et un Time's Up ou des jeux d'ambiance qui marquent comme ça, c'était pas facile à faire du tout.
Alors revenons au mécanisme du Cyrano lui-même. Quel est le matériel? Je vois qu'il y a une espèce de chose un peu bizarre dans laquelle on glisse des cartes. C'est un peu le centre du jeu. À quoi il sert, Thomas?
Donc dans le jeu, il y a la tour à cartes qui va permettre en fait de mettre à chaque tour 3 cartes et indiquer aussi de manière très simple aux joueurs le thème. Donc ici on a mis 3 cartes pour l'exemple. Le thème va être le ciel et les deux rimes avec lesquelles on va jouer, c'est if et o. Mmh. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on a ajouté parce qu'on s'est rendu compte que lors de nos tests, il fallait un élément visuel et surtout le fait que le jeu soit quadrilingue posait problème parce qu'il y a des gens qui commençaient à faire des rimes avec des poèmes avec des rimes en allemand, c'était un peu compliqué. Donc là, ça permet vraiment d'asseoir le jeu, de lui donner un bel objet assez noble, tout simple, efficace. Donc ça, c'est pour la tour à cartes. Ce qu'il y a dans la boîte, donc j'ai dit un gros bloc de 150 feuilles avec le scoring intégré puisque les joueurs verront, il y a une belle tour avec l'échelle et la tour avec des cases pour que Roxane puisse descendre. Il y a 55 cartes de rimes qui sont recto verso et donc qui sont multilingues, multilingual. Et il y a 9 plaquettes pour indiquer le symbole des personnages, c'est-à-dire que lors de la phase de vote, il faut qu'on puisse voter, on puisse choisir quand on va voter. Et donc là, il y a 9 plaquettes. Et évidemment, il y a les cartes de vote qui sont en 9 fois 9 exemplaires pour qu'on puisse facilement indiquer qui a voté pour qui. Il y aura des beaux crayons, évidemment. Je voulais revenir sur un truc parce qu'on parlait justement du fait que Report Production était identifié comme éditeur de jeux d'ambiance. Si on regarde la ludographie de Ludovic, Ludovic est également identifié comme auteur d'ambiance, alors qu'en fait, il a fait plus de jeux sérieux. Mmh. Il a commencé avec Monstro Follies et Cash and Guns. Il a fait Bonne Question, mais à côté de ça, il y a Mr. Jack, il y a Cyclad. Donc en fait, finalement, on s'y trompe. Un auteur ou un éditeur, ça peut être beaucoup plus large que ses premières impressions qu'on donne. Mmh. Et Ludovic a montré qu'il pouvait briller dans les deux types de jeux.
Est-ce que ça veut dire que le jeu de société est à un niveau maintenant, que quelle que soit l'idée, on trouve de toute façon une manière de l'exploiter pour que ça devienne un jeu ?
Je pense que les auteurs francophones avec lesquels on travaille se sont professionnalisés, comme nous aussi, on a appris notre métier. Et maintenant, des auteurs comme Ludo ou Antoine ou tous les auteurs avec qui on travaille arrivent vraiment à amener des prototypes déjà à très très haut niveau. Ce qui fait qu'une fois qu'on prend le bébé, il y a plus ou moins de réglages, mais surtout, il y a moins de... Enfin, les produits à l'arrivée sont excellents. Pour revenir à la question exacte, je pense que toutes les idées ne peuvent pas faire de bons jeux, mais que ces auteurs, avec leur professionnalisme, arrivent à vraiment tirer la quintessence d'une bonne idée pour en faire une mécanique qui fonctionne. La mécanique de Cyrano, lorsqu'on l'a testé la première fois, on s'est dit c'est un excellent jeu, mais c'est difficilement marketable, c'est difficilement vendable. Cédric adorait le jeu, moi j'étais un peu plus dubitatif parce que je trouvais que c'était plus difficile pour moi de jouer. Et c'est le retour qu'on a fait à Ludo, et il a amené des solutions qui ont permis vraiment de faciliter le jeu, donc c'est-à-dire qu'il y a des exemples pour les lettres, etc. Ça paraît tout simple, mais ça a vraiment décomplexé le joueur que j'étais. Donc maintenant, je peux jouer tout à fait allègrement à Cyrano. Et la chose importante, c'est le scoring, c'est-à-dire que le scoring de Cyrano est un scoring intelligent. Ça paraît. Ce qui est important de dire là-dedans, c'est qu'on ne votera dans la deuxième phase pas pour le meilleur poème. Si on votait pour le meilleur poème, le jeu n'avait aucun intérêt. Parce que les joueurs doivent se forcer à dire « Oui, mais je vais voter pour Tibi parce qu'il a fait un chouette poème, mais j'ai pas envie parce qu'il va gagner. » Et ça aurait cassé totalement la magie du jeu et l'élan poétique et créatif des joueurs. Tandis que là, essayer de trouver lequel les gens ont préféré renverse totalement le scoring. Il y a une vraie phase où les joueurs doivent réfléchir pour sentir quelle est la tendance, et ça fait que le jeu en lui-même est fini, il est bien fermé. On écrit des poèmes, on doit être original. On doit voter pour trouver celui que les gens vont préférer. S'il n'y avait pas l'enchaînement de ces deux phases et que le jeu se prêtait juste à écrire des poèmes, on n'aurait jamais signé. Mais Ludovic et Angèle ont vraiment réussi à faire un produit global qui a vraiment un intérêt et qui va amener les joueurs à écrire de la poésie. Donc c'est vraiment à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a bien aimé le projet.
C'est là qu'on retrouve aussi votre patte de développement, c'est-à-dire que le jeu ne doit pas refroidir. On l'a vu avec Bonne Question, et on l'a vu avec d'autres jeux d'ambiance, ou si on doit parler des jeux d'ambiance, où justement votre travail fait qu'un joueur qui aurait peur de s'y mettre, finalement s'y met parce que le jeu est bien réglé pour lui. Cyrano, c'est un jeu de 4 à 9 joueurs, à partir de 8 ans et plus, 45 minutes, ce qui est assez rapide, et illustré par Pierrot, qui passait par là.
Oui, illustré par Pierrot, en fait, Pierrot s'arrange toujours pour mettre le pied dans la porte, hein. Pourtant on l'aime pas, on n'a pas envie de travailler avec, mais il arrive toujours à s'imposer. Et non, en fait, Pierrot et Ludo se connaissent bien, enfin on les connaît aussi, tantôt on partage quelques week-ends ensemble pour tester des protos. Et lors d'un week-end qui s'est déroulé chez Bruno Feduti, on a fait une partie de Cyrano qui a été mémorable. Bon, je crois qu'on avait un peu bu avant. Et on a eu des scènes absolument d'anthologie, avec des grands noms du jeu français d'ailleurs. Et il faut savoir que ça a été filmé par Pierrot à l'époque. Et donc maintenant, comme Pierrot peut faire chanter à peu près tout le monde ludique français, on est obligés tous de travailler avec lui, on n'a pas eu le choix.
Ok, et c'est sorti pour quand ça ?
Alors... Là, en ce moment, c'est dans les rotatives. On est très, très angoissés. Mais normalement, ça devrait arriver dans les magasins pour le 10 février. C'est-à-dire pour être là, les jours qui vont précéder la Saint-Valentin, qui, comme tu ne l'as pas oublié, c'est le 14 février.
Voilà, tout à fait. Alors que nous sommes le jour de la Chandeleur aujourd'hui.
Eh bien oui, tu veux une clap ?
Ok, merci messieurs. On va tester ça, mais on va attendre encore un petit peu le 10 février. Et on fêtera ça avec sa douce et verre.
D'accord.
Et nos amis, eux...
C'est à partir de cartes.
Oui, ah oui, nos deux amis,
Merci, chers auditeurs, et retrouvez d'autres podcasts consacrés aux jeux de société sur le site internet www.boitecast.net.